Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Bien, merci d'écouter, d'être à l'écoute du magazine Okapi Service. Nous abordons tout de suite notre premier thème du jour. Nous allons parler environnement, comment gérer les forêts de manière à atténuer les effets du changement climatique. Vous savez, les forêts sont mal gérées en RDC, elles sont détruites de façon incontrôlée par la coupe, surtout par la coupe massive des arbres. Et c'est qu'il y a des effets, c'est là des effets néfastes, n'est-ce pas, avec comme l'une des grandes conséquences le réchauffement climatique. Alors, que faire aujourd'hui pour bien gérer les forêts congolaises de manière à atténuer les effets du changement climatique? Jean-Robert Boingoy est expert en environnement. Il est avec nous dans ces studios. Bonjour, monsieur Jean-Robert.
Bonjour, monsieur.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.
Alors, nous parlons aujourd'hui de la gestion des forêts, hein, de manière à atténuer les effets du changement climatique. Hein. Alors, dites-nous, la première question est de savoir quel est le lien entre la forêt et le climat.
Oui, merci beaucoup pour la question. Je vais d'abord donner une petite précision pour vous dire que nous ne sommes pas responsables des grandes quantités d'émissions de gaz à effet de serre qui causent les changements climatiques. Ça, il faut qu'on soit clair. Ce ne sont pas nos forêts qui dégagent des tonnes de CO2 qui créent un déséquilibre au niveau du climat mondial. Par contre, ce sont donc les forêts, par le mécanisme de la photosynthèse, absorbe le CO2 et dégage l'oxygène. Donc, l'excès de CO2 dans l'atmosphère est absorbé par la forêt. La deuxième chose est que...
Et comment ça se passe, cette absorption? Comment s'est fait ce processus-là?
Bon, le processus est simple. Donc, les feuilles... des arbres, donc les forêts avec leurs feuilles absorbent le gaz carbonique. Et avec ce gaz carbonique, ils fabriquent le sucre qui permet à l'arbre de croître, de grandir. Et donc il sert de nourriture pour l'arbre en fait. Et dégage l'oxygène. C'est un mécanisme très simple, bien connu. Donc maintenant, puisque la forêt accumule de grandes quantités de CO2, hein, puisque ce CO2, ces sucres sont accumulés dans le bois, lorsqu'on coupe les arbres et que ces arbres pourrissent, ils dégagent à nouveau l'oxygène, le CO2.
Le CO2.
Donc, ils dégagent à nouveau le CO2 dans l'atmosphère. Donc, la déforestation contribue aussi au dégagement du CO2 dans l'atmosphère. Mais vous savez qu'en République démocratique du Congo, donc nous sommes à 0,3% hein, du taux annuel de déforestation. Donc, nous ne sommes pas vraiment des grands contributeurs.
Voilà, nous ne sommes pas vraiment des grands contributeurs. Mais quelque part, on parle de la coupe désordonnée des arbres dans notre pays. C'est aussi un problème majeur.
Oui, lorsqu'on coupe les arbres, comme je viens de le dire, il y a un consommateur de CO2 de moins. Donc, il y a une augmentation, nécessairement une augmentation de gaz à effet de serre, notamment du CO2. Alors, lorsqu'on coupe de façon désordonnée, il y a d'abord un consommateur de moins et ensuite possibilité de dégagement après pourriture des arbres et des feuilles.
Voilà. Alors, vous parlez du gaz à effet de serre, c'est quoi? Pouvez-vous nous expliquer un peu plus, hein?
Oui, en fait, si on essaie de regarder, donc, le système, notre système mondial, reçoit uniquement de l'énergie du soleil. Et si on essaie d'intégrer la quantité d'énergie que nous recevons du soleil et celle qui nous arrive, et c'est, on soustrait ce qui est bloqué au niveau de la haute troposphère et ce qui est transmis, on peut estimer que dans les latitudes équatoriales de chez nous, c'est-à-dire une ville comme Bandaka devrait être à moins 5 degrés Celsius. Ça voudrait dire que le fleuve Congo devait normalement être un fleuve gelé. Bon, heureusement qu'il y a un certain nombre de gaz dans l'atmosphère, essentiellement la vapeur d'eau et le gaz carbonique, qui vont se réchauffer. Donc, lorsque l'énergie arrive du soleil, eux, ils vont emmagasiner cette énergie, ils vont se réchauffer et ils vont augmenter la température du système à l'équateur de 33
degrés. Même dans la province orientale à Kisangani, il fait
bien sûr.
Hein.
Je dis l'équateur, c'est l'équateur climatique.
Climatique, oui.
Donc, ils vont réchauffer au niveau de l'équateur de 33 degrés Celsius. Donc, à ce moment-là, les températures qui étaient normalement de moins 5 degrés Celsius dans les villes comme Kisangani, qui sont en basse altitude, arrivent à 28 degrés Celsius. Donc, c'est à cause de ces gaz que nous avons, cette stabilité dans la vie. Maintenant, lorsque nous augmentons les quantités de gaz à effet de serre, l'effet est le même. La température va augmenter. Hein, c'est clair, la température va augmenter. Et si la température augmente, vous avez vu certaines années ici à Kinshasa, il y avait une canicule exceptionnelle.
Même ces derniers temps, il fait très chaud. Hein.
Voilà, 38 degrés Celsius, c'est déjà trop pour nos corps.
Est-ce qu'on peut dire que c'est lié à la coupe des arbres dans la ville? Parce qu'à un certain moment, on a coupé des arbres.
Non, le problème est global. Donc, il faut savoir que lorsqu'il y a pollution en Chine, les concentrations de gaz à effet de serre s'égalisent après 10 jours dans le monde entier. Donc, la pollution qui est faite en Chine nous arrive ici après 10 jours. Et donc, essentiellement, ce sont les pays développés, les pays industrialisés...
Qui polluent l'environnement.
Qui polluent, qui envoient des grandes...
J'imagine qu'avec notre forêt, on arrive à séquestrer les CO2 qui est dégagé.
Exactement. Nous avons le deuxième poumon mondial de forêt tropicale, donc après l'Amazonie. Donc, notre forêt contribue beaucoup pour la stabilité du climat.
Et mondial, pas seulement dans le pays, mais au niveau mondial.
C'est exactement. Donc, c'est un problème global. Il y a effectivement des problèmes microclimatiques. Hein. Donc, la ville de Kinshasa, par exemple, n'a pas d'arbres et nous avons un sentiment. Donc, il y a toute l'énergie qui est dissipée et trop de béton dans la ville.
Dans
donc,
la ville, des constructions, des immeubles.
Oui, c'est pour cette raison qu'il y a encore des éléments qui emmagasinent davantage et qui dissipe l'énergie la nuit. Et donc, on a un sentiment d'être vraiment dans une situation difficile. Mais dans les villes où il y a beaucoup d'arbres, comme Kisangani ou Mbandaka, on sait que la nuit, on a un sentiment de bien-être. Par contre, ici à Kinshasa, les nuits sont chaudes à cause du dégagement de la chaleur pendant la nuit, la chaleur qui a été emmagasinée pendant la journée. Et là, c'est effectivement un problème sérieux.
Voilà, on va y revenir dans quelques instants, le temps d'accueillir les auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de la gestion des forêts, de manière à atténuer les effets du changement climatique. Polybé nous appelle de Kindu et Adrienne Dissiro.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Comment gérer les forêts de manière à atténuer les effets du changement climatique? Polybé de Kindu, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Polybé, on vous écoute.
Également mon frère, bonjour.
Quelle est votre question Polybé?
Oui, bon, moi j'ai peut-être une observation. Pour bien gérer les forêts de la RDC, les grandes nations, premières contributrices de gaz qui créent des déséquilibres climatiques, doivent donner des moyens conséquents pour que les populations de la RDC vivent. Vous savez, mon frère, je suis au Maniema, une province entièrement agricole où les populations ne vivent que de la forêt. Pour manger, pour trouver les champignons, pour les traitements à travers les plantes médicinales, pour les pirogues, pour trouver également des pirogues, sont les pirogues qui servent de moyens de transport parce que nous avons le majestueux fleuve Congo ici. Alors, s'ils ne donnent pas des moyens, c'est fini, laissons le monde arriver à sa fin. Parce que les Congolais ne resteront pas privés de leurs bienfaits naturels dans le seul but de protéger les pollueurs. Vous savez, nous pratiquons la pirogue, pendant que nos frères de l'Europe, les gens avec qui nous vivons le même monde, pratiquent des moyens de transport sophistiqués, et c'est encore eux qui polluent l'environnement, qui veulent mettre fin au monde. Alors, laissons le monde arriver à sa fin.
Polybé, voilà, vous dites, laissons le monde arriver à sa fin. Vous avez dit tout à l'heure que les grandes nations qui polluent l'environnement doivent donner des moyens. Les moyens pour faire quoi? Pour quel but?
Bon, les moyens, c'est pour que nous ayons...
Veuillez fermer votre radio, Polybé. Veuillez fermer votre radio, vous allez suivre à partir de votre téléphone, parce que là, il y a...
Je suis un peu loin de la radio. Je disais que les grandes nations doivent nous donner de moyens. Par exemple, pour les transports, si les grandes nations disponibilisaient de véhicules, si pour les fleuves ou les transports maritimes, il y avait des bateaux, on n'aurait pas besoin de couper des bois et fabriquer de pirogues. Et pour ce qui est de couverture, de toiture, on n'aurait pas besoin de couper les arbres pour avoir des toitures en bois ou des toitures en arbre si on avait des tôles. Voilà. Donc, les grands moyens doivent venir investir, créer des industries. Comme ça, nous laisserons nos forêts tranquilles.
D'accord, je comprends.
Et s'ils ne veulent pas, nous allons tous laisser le monde mourir, périr, et c'est fini.
D'accord. Et un instant, M. Bongo, il est temps d'accueillir Adrienne qui nous appelle depuis Siro. Bonjour, Adrienne.
Bonjour, M. Jody Keshama. Bonjour aussi à M. Robert, Jean-Robert Boangoy.
Vous êtes à Lubumbashi ou à Isiro?
Je n'ai jamais été à Isiro. Je suis à Lubumbashi.
Ah, ben voilà, je me suis rendu compte que vous n'êtes jamais... vous n'êtes pas Isiro, plutôt à Lubumbashi. Ok, on vous écoute.
M. Robert, je vous ai bien suivi dans l'introduction. Vous nous avez dit que ici, chez nous, au Congo, nous ne sommes pas des grands contributeurs. Donc, alors, qu'est-ce qui fait à ce que ici, chez nous, au Congo, nous ne sommes pas des grands contributeurs, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on soit aussi des grands contributeurs?
Contributeurs?
Ma dernière question est savoir...
Adrienne?
Si, oui?
Oui, vous dites que nous ne sommes pas des grands contributeurs en quoi?
Ce qu'il nous a dit dans l'introduction à propos des climats, des problèmes des forêts que j'ai suivi dans l'introduction, bien que je vous ai pris diffusion en cours.
Ok.
Et ma dernière question, j'aimerais aussi savoir si ce problème est lié aussi à la coupe des arbres. Merci, Jody.
Merci, Adrienne, depuis Lubumbashi. Bonne journée, Monsieur Jean-Robert.
Oui, d'abord, je vais un peu réagir par rapport au commentaire de notre ami Polybé tout à l'heure. Bon, pour lui dire que d'abord on a mis en place des mécanismes pour que on puisse avoir une compensation. Donc c'est le programme
RED
mondial, RED. Donc
le processus
de réduction des émissions dues à la déforestation, à la dégradation des forêts. Donc il faudrait que nous puissions continuer à, nous ne puissions pas dégrader les forêts, pour que ces forêts-là puissent continuer à contribuer à la stabilité du climat. Donc je viens de vous dire que nous sommes le deuxième poumon des forêts tropicales du monde. Donc en ce moment-là, c'est extrêmement important que nous puissions ne pas contribuer à empirer la situation, contrairement au souhait de notre ami puisque nous ne connaissons pas les effets. Nous ne connaissons pas les effets et nous n'avons pas suffisamment de moyens. Ceux qui ont le plus de moyens sont ceux qui vont résister, ceux qui vont trouver des moyens pour pallier aux effets de ces changements climatiques. Chez nous, comme nous n'avons pas de moyens,
de protéger notre forêt.
Ben voilà. Mmh. Donc, si jamais la situation s'empire et qu'une ville comme Kindu puisse aller sous l'eau, suite à, par exemple, une augmentation du niveau du fleuve, ben c'est nous-mêmes qui avons un problème. Ensuite, il ne faut pas voir la protection de la forêt seulement dans un cadre global. La protection de la forêt peut être aussi vue dans un cadre local. Nos sols sont très pauvres, à l'exception des sols qui se trouvent dans dans la bande, dans la frontière, oui, dans le Kivu, tous les sols sont pauvres et la fertilité des sols est normalement gardée dans la biomasse aérienne. Donc, c'est pour cette raison que vous voyez que nos parents, nos grands-parents avaient un système de jachère. Donc, c'est pour amener la fertilité au niveau du sol. Et si on n'a plus de forêt, les sols vont devenir encore plus pauvres et nous n'aurons rien. Ensuite, Polybe se souvient que quand nous étions enfants, il y avait beaucoup de gibier. Le gibier, c'est pour notre propre consommation. Aujourd'hui, en détruisant la forêt, on diminue la quantité de gibier qu'on peut avoir. Donc, ça a un effet sur notre propre alimentation directement. Et il va y avoir aussi des problèmes au niveau du fleuve, hein, parce que on peut avoir des érosions. Et les érosions vont directement affecter la productivité des poissons dans le fleuve. Donc tout cela, ce n'est pas nécessairement un problème global. Donc si on laisse effectivement le monde se mourir, nous allons mourir nous-mêmes d'abord. Ensuite, pour répondre à
Adrienne,
je veux dire que Adrienne, nous devons rester des petits contributeurs dans les gaz à effet de serre. Nous ne devons pas nécessairement nous devons viser une économie verte, une économie qui protège l'environnement et une économie qui est très peu polluante par rapport à ce qui se fait ailleurs. Nous ne sommes pas obligés de suivre le mauvais exemple.
Chine, c'est le premier pollueur parmi les grands pollueurs.
Exactement. Donc, c'est un très mauvais exemple que nous ne devons pas suivre. Nous pouvons faire comme les Scandinaves. Nous pouvons avoir une économie forte et verte.
Comment?
En protégeant les forêts, en participant à des mécanismes de production à rendement soutenu et aussi
le reboisement.
Oui, on peut viser le reboisement parce que vous voyez la moitié de notre pays est constitué de savanes pratiquement. Donc tous ces endroits-là, en reboisant, c'est à notre propre intérêt, c'est à notre propre bénéfice. Donc on n'est pas obligé de suivre le mauvais exemple.
Mais il faut réduire la pression sur la forêt.
Exactement.
Il y a des gens qui ne vivent que de la forêt,
Produits
de la forêt.
Exactement. Il faut essayer de réduire la pression sur la forêt. Le grand problème que nous avons aussi ici actuellement, c'est l'agriculture extensive sur brûlis. Hein? Nous sommes en train, on a une petite expérience qu'on est en train de mener dans le Maïndo, mais on est en train de montrer aux gens qu'ils peuvent produire beaucoup sur des petits espaces, au lieu de faire une expansion essentiellement avec la culture de manioc. Donc, il faudrait que nous puissions, nous sommes capables de produire et le bois, et les produits de l'agriculture sans jamais détruire la forêt. Donc ça, c'est ce que
Qu'ils vont couper le bois pour faire des bois de chauffe, pour les menuisiers. Vous avez suivi même, Polybe a dit, on utilise le bois pour fabriquer des pirogues, alors il faut des bateaux, les remplacer, il faut trouver autre chose à la place. Et à un moment donné, on parlait même des énergies alternatives, au lieu d'utiliser les bois de chauffe.
Oui, bon, vous savez, moi je suis d'abord, au départ, je suis ingénieur forestier et ingénieur géospatial, donc oui. Je regarde la forêt dans cette perspective-là en tant que forestier et en tant qu'ingénieur géospatial, je regarde la forêt d'en haut, à partir des satellites. Mais je peux vous dire que dans la forêt, il y a ce qu'on appelle un bénéfice. C'est comme un commerçant. Il ne touche jamais son capital. Ce que nous voulons faire, c'est de ne jamais toucher le capital. Donc, les forêts sont normalement agrégé, il y a normalement une agrégation dans la forêt. Ça veut dire qu'on a plus de bois sur pied qu'on devait normalement avoir dans un processus de distribution aléatoire. Si on peut simplement, après un inventaire forestier, enlever le bénéfice, donc couper les arbres qui sont surannés, les plus gros et ceux qui sont surannés, et on va laisser la forêt évoluer. Ça, c'est ce qui est arrivé. Vous savez, Forestcom a coupé depuis 1923 dans le Maïndom. Les espaces qu'ils ont coupés en 1923 sont encore, on peut encore passer aujourd'hui et couper des gros arbres. Donc, c'est parce que on fait une coupe rationnelle.
Et il y a régénération.
Voilà, il y a une régénération. Il y a les arbres qui avaient un diamètre plus petit qui vont passer au diamètre plus grand dans 10, 15, 20 ans. Donc, ça, c'est une façon de le faire. La deuxième façon de le faire, c'est carrément d'aller dans les espaces qu'on a complètement détruits et de procéder au reboisement. Donc nous sommes une grande nation, nous devons déjà commencer à penser à ça. Vous avez vu, ici on avait fait le reboisement de 8000 hectares à Mampou, à côté de Kinshasa. Les gens sont en train de couper aujourd'hui pour faire le charbon de bois.
Oui.
Mais si on avait fait tout le plateau de Bateke, aujourd'hui on n'aurait pas de problème de bois d'énergie, de bois de chauffe dans la ville de Kinshasa.
Parce que donc, la partie-là, il n'y a que la savane.
Oui, donc, il n'y a que... C'est la savane, c'est sur du sable. Hein, c'est le sable du Kalahari qui avait été amené ici par érosion éolienne. Donc... ce sable-là ne permet pas vraiment de faire pousser, hein, de faire l'agriculture, si je peux le dire.
Mais non, avec la forêt
mais on peut reboiser, voilà, on peut reboiser. Et aujourd'hui, c'est un grand bénéfice parce que...
Un instant, M. Bongo, il est temps d'accueillir deux auditeurs, Malonga de Bandonville et Augustin de Kisangani.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer... Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Comment gérer les forêts de manière à atténuer les effets du changement climatique? Malonga de Bandonville, bonjour. Malonga, bonjour.
Bonjour, bonjour aujourd'hui, bonjour.
Quelle est votre question, Malonga?
Oui, ma question est mon ajout sur tout ce que je viens d'écouter. Que, en tout cas, cela est dit d'abord au manque de suivi, hein, de l'État, puisque le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. C'est l'État qui doit veiller à la surveillance de la déforestation. Mais je vois que est-ce que l'État, le ministère de plat, ne peut pas mettre un département seulement de reboisement? Puisque signer un contrat avec une société ou bien une entreprise d'exploiter la forêt, et puis c'est cette entreprise qui va reboiser encore, je vois que c'est trop drôle. Ici, on dit que l'agriculture est priorité des priorités. La population aussi, elle se développe en cultivant. La population elle-même ne doit pas supporter... Le reboisement. Alors, il faut que l'État forme ou bien crée un département spécial là où on a fait la déforestation. Il doit y avoir des agents qui viennent pour reboiser cet allié. Est-ce que c'est possible ou bien ce n'est pas possible?
D'accord, merci. Merci pour la question, Malonga. L'État doit vous demander à l'État de créer un département spécial chargé des reboisements. Augustin, vous êtes à Kisangani. Tati, où est-ce qu'il est? Il est à Kisangani, bien sûr. Augustin, bonjour.
Oui, bonjour, je suis à Kisangani.
Voilà, vous êtes à Kisangani. On vous écoute.
Oui. Et donc, j'ai deux préoccupations.
Oui.
D'abord, je suis ingénieur en construction. Le bois intervient au moins à un quart de nos travaux lorsque nous construisons des maisons, les ponts, et ainsi de suite. Donc, je veux savoir, notre invité peut nous essayer de nous orienter. Au lieu d'utiliser le bois pour la charpente, pour le coffrage et pour l'implantation, qu'est-ce qu'on peut utiliser en outre que ça? Ça, c'est la première préoccupation.
Mmh.
Parce que nous sentons obligés d'utiliser les bois dans différentes parties de notre construction. De deux, mon père est cultivateur. Je ne sais pas comment je peux le convaincre aujourd'hui de dire que non, tu dois abandonner le champ parce qu'on doit reboiser, on doit conserver la nature, ainsi de suite. C'est la communauté internationale qui, en fait, à mon avis, je crois qu'il doit s'investir davantage pour...
Augustin, on l'a perdu, désolé, il n'est plus en ligne. Mais on a saisi quand même une bonne partie de sa question. Jean-Robert, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Oui, d'abord à notre auditeur, notre
Malonga
ami qui est Malonga, qui est à Bandonville. Il faut dire que la gestion des forêts... dépend du ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, et à l'intérieur de ce ministère, il existe bel et bien un département qui s'occupe du reboisement. Donc, c'était le Service national de reboisement. Aujourd'hui, je crois que c'est une direction, donc il a changé de nom. Donc, il y a un service qui s'occupe uniquement du reboisement. Et il y a un fonds forestier national qui, normalement, a été créé pour financer les actions de reconstitution de nos forêts. Mmh. Bon, maintenant, le problème, c'est au niveau du suivi de tout ce que l'on fait. Donc, je viens de parler de 8000 hectares de reboisement à Mampou. Mmh. Donc, je me souviens que c'est le secrétaire général actuel, M. Kassoulou, qui était un des acteurs dans ce reboisement-là. Donc, l'État doit mettre les moyens. Hein, ce n'est pas nécessairement le ministère de l'Environnement. L'État, globalement, doit mettre les moyens pour qu'on puisse le faire.
Alors, pour bien gérer les forêts, qu'est-ce qu'il faut? Il faut créer des aires protégées, il faut des parcs. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement?
Bon, il y a des aires protégées déjà qui existent. Nous avons la Salonga qui est 3 600 000 hectares. Il faut les protéger suffisamment. Ces aires-là, bon, il y a trop de braconnage à l'intérieur des aires protégées. Il y a aussi des gens qui coupent les bois. Mais
un instant, et Augustin de nouveau en ligne. Augustin, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Alors, votre deuxième partie de la question, allez-y rapidement.
Oui, ma deuxième partie consistait à faire voir que la communauté internationale qui est en train de chercher à sauvegarder les forêts doit investir dans les recoins du pays, par exemple dans notre pays. Je parle ici à la province du Maniema, de la province orientale, là où il y a des grandes forêts, même à l'Équateur aussi. De fournir assez de moyens pour convaincre à ces papas-là d'abandonner ses activités et de lui procurer une autre chose à faire, une autre affaire. Sinon, ça causerait des problèmes. Les gens qui sont dans la brousse là, ils vivent de la forêt au jour le jour. Moi, je ne sais pas comment ils peuvent être convaincus d'abandonner la forêt parce que seulement ils doivent faire plaisir à la communauté internationale.
Voilà. D'accord. Merci, Augustin de Kisangani. Monsieur Jean-Robert. Oui.
Alors, je vais répondre à Augustin qui a des préoccupations très importantes, intéressantes. Je vais lui dire que, comme il est ingénieur en construction, en tant qu'ingénieur forestier, je vais plutôt encourager qu'il puisse consommer le bois. Moi, j'encourage qu'on puisse consommer le bois pour créer une économie verte. Le problème n'est pas que nous avons un problème de production, donc que la production du bois d'œuvre soit un moteur de la déforestation. Le problème, c'est le déboisement anarchique. Je viens de dire tout à l'heure que lorsqu'on arrive dans une forêt, et là je viens encore avec mon expérience en tant qu'ingénieur géospatial, nous pouvons analyser, nous pouvons voir les agrégations qu'on a dans la forêt et couper le bois qui se trouve en plus d'une distribution normale, uniforme ou aléatoire. Donc, on peut déterminer que voilà, c'est ça qui constitue le bénéfice dans la forêt et couper, et on aura suffisamment de bois, croyez-moi, pour alimenter l'industrie de la construction. Bon, par contre, si vous voulez ne pas utiliser le bois, ben vous avez une autre alternative, c'est la ferraille. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez remplacer. Hein,
pour faire le coffrage.
Pour le coffrage, il y a maintenant, d'ailleurs, on utilise beaucoup de produits plastiques, on utilise des PVC.
Mais généralement, on voit beaucoup de bois qu'on utilise pour le coffrage.
Oui, mais on peut utiliser le PVC. Hein, on peut utiliser le PVC.
À la place du bois.
Ah, bien sûr. Vous savez, un des plus grands experts mondiaux du PVC, qui est professeur à l'université de l'État de Michigan, est congolais. C'est un garçon qui est né à Kinshasa, qui a grandi ici, hein, mon collègue de classe, Matouane. Donc, il produit des PVC, il fait de mélange de la fibre du bois. Donc, tout ce qu'on jette à la sciure, il récupère, il fabrique des PVC avec, aux États-Unis. Donc, on peut créer des usines de PVC qui peuvent avoir des produits réutilisables chaque fois pour le coffrage. Donc, ça, c'est pas un problème. Mais, personnellement, en tant qu'ingénieur forestier, je veux recommander qu'on utilise le bois pour que l'industrie puisse être redynamisée. Mais le problème n'est pas dans l'utilisation du bois. Le problème se situe dans l'anarchie qu'il y a dans la coupe du bois. Ou dans la, donc la déforestation provient des actions non planifiées qu'on fait dans la forêt. Ça, c'est un problème.
Et voilà, Augustin qui revient sur, il dit son papa est cultivateur, et il va utiliser le produit de la forêt. Alors, aujourd'hui, comment arriver à convaincre tous ces autochtones qui exercent une pression sur la forêt? Il faudrait que la communauté internationale, comme il l'a dit, puisse mettre des moyens afin d'occuper ces autochtones à faire autre chose et à réduire la pression sur la forêt.
Oui, ben, vous savez qu'il y a une chose que l'homme va toujours faire, c'est de manger. Donc, on ne peut jamais interdire quelqu'un qui produit la nourriture, à ne pas le faire, parce que le monde a besoin de la production de nourriture. Mais c'est, là encore, c'est la manière dont on est en train de produire qui constitue un problème. Augustin se souvient que son papa a planté ou cultive le manioc depuis 1970, il n'est jamais devenu riche. Ben, moi, je vis la moitié de mon temps, je vis dans le Dakota du Sud, qui est un état de fermiers aux États-Unis. Les fermiers sont des millionnaires, ce sont des gens extrêmement riches. Bon, puisqu'on est en train de mal produire, il faut le dire, on est en train de mal produire. On fait l'agriculture extensive sur brûlis, où on cultive le manioc essentiellement dans le pays. Il faudrait que nous puissions changer de méthode culturelle. Il faudrait que nous puissions faire de l'intensification agricole. Son papa n'a pas besoin de 10 hectares pour produire la quantité de manioc qu'il produit chaque année. Il peut produire des grandes quantités de spéculations qui lui rapportent beaucoup, qui vont lui rapporter beaucoup d'argent sur 1 ou 2 hectares chaque année. Donc, il faut justement aller vers l'intensification agricole et aussi évaluer les besoins. Qu'est-ce que nous avons besoin? Est-ce que nous avons besoin que papa produise autant de manioc qu'il n'est pas capable de couler sur le marché ou qui coûte 22 000 francs congolais le sac? Il sera pauvre toute sa vie. Donc, il faudrait que nous puissions voir dans l'Est, au Kivu, on produit des haricots qui se vendent beaucoup, beaucoup plus cher que le manioc. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas produire le manioc, mais commercialement, le manioc n'est pas très rentable. Donc, il entretient plutôt la pauvreté. Donc, non, je crois que Augustin doit s'apaiser. Il y a suffisamment, dans les espaces de forêt secondaire que nous avons en République démocratique du Congo, il y a suffisamment d'espace pour que nos parents puissent faire l'agriculture. Mais nous devons faire une agriculture durable. Donc, on doit éviter de faire l'agriculture extensive.
Voilà, il faut une agriculture durable. On retient pour terminer Jean-Robert Wangoy, pour gérer efficacement les forêts, il faut bien contrôler la coupe des arbres. Il ne faut pas que ça se passe d'une manière anarchique, c'est ça.
Il faut une très bonne planification. Et oui, cela, comme Augustin vient de le dire, c'est l'État, c'est la responsabilité de l'État de pouvoir arriver à une planification correcte. Ils ont parlé du zonage du territoire. Personne ne met suffisamment de moyens pour qu'on puisse avoir un bon zonage du territoire. On a parlé des services de reboisement. Personne ne donne suffisamment d'argent pour que le reboisement se fasse. Ailleurs, on met suffisamment de moyens.
Donc,
pour
ici, on s'arrête aux déclarations d'intention, mais après, il n'y a rien.
Exactement.
Ben voilà, Jean-Robert Wangoy, expert en environnement, merci et à la prochaine.
Merci beaucoup.